Bienvenue, la plus rebelle des radios. What you call is a diamond fella. All your little ways of a comedy appearance. You fellow with your fellows get clean like a cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. You, what are you gonna do? Little boys get tame like a shrew. You mid summer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm capturing your monarchy, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice getting so your CD. Bonsoir.
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 Nous sommes le mercredi 20 novembre 2019 et c'est l'heure du Canu Info. Et de quoi va-t-on parler ce soir ?
Eh bien, ce soir, on va parler du Tidor, jour de souvenir trans.
Et on va faire un point sur la réforme de l'hébergement.
Ensuite, on ira en Bolivie, suite au coup d'État, des réactions populaires.
En Iran, des révoltes populaires aussi, suite à l'augmentation du prix de l'essence.
Et on continue sur les révoltes, et bien on ira au Liban, et avec un gouvernement qui est sur la sellette.
Et surprise, la suppression de l'ISF va profiter aux plus riches.
Ensuite, on ira du côté de Hong Kong, où on est au quatrième jour de siège de l'université.
Et les États-Unis soutiennent les colonies illégales israéliennes en territoire palestinien.
Et là, ensuite, on aura la rubrique « Faut que ça se sache » avec dedans...
Des brèves des frontières.
Et on ira à Athènes qui va remplacer le plus gros camp de migrants par des structures fermées.
Et on finira par la reconnaissance faciale qui est un faux débat selon la Quadrature du Net. Et si nous avons le temps, nous diffuserons un reportage sur les 1 an des Gilets jaunes à Lyon. Les Tidor, c'est la journée du souvenir trans et c'est la déclinaison française de Transgender Day of Remembrance et ça a lieu les 20 novembre, donc aujourd'hui, partout dans le monde entier pour commémorer la mémoire des personnes trans assassinées pour motif cis-sexiste ou on peut aussi dire transphobe, c'est-à-dire la haine ou l'incompréhension, la peur que des personnes trans peuvent générer à des personnes cis, soit cis, ça veut dire les personnes non qui sont pas trans. Et c'est donc une journée pour attirer l'attention sur les violences subies par la communauté trans. Et pour expliciter un peu plus, on peut décrire plusieurs morts. Donc la mort brutale et violente des agressions aboutissant donc au décès de femmes trans majoritairement. Tu peux éteindre le c'est le téléphone, merci. On peut aussi également nommer l'absence de chiffres sur les personnes trans qui meurent, des récits de vie ramenés à des subjectivisations visant à nier et psychiatriser les personnes trans. Des enterrements qui sont faits au pronom d'assignation effaçant plus encore la personne, donc c'est-à-dire que les prénoms de naissance qui nient donc l'identité de la personne et des discours politiques, les discours politiques et médiatiques qui nous objectivisent et nous invisibilisent. Et sachant aussi que dans l'absence de chiffres, on parle pas des personnes qui se suicident. Voilà, pour faire un petit tour très très vague, mais pour nommer un peu cette journée. Et tu veux nous dire du coup des événements qui ont lieu aujourd'hui ?
Ouais, à Rennes, du coup, en ce moment, il y a un rassemblement en place de la mairie organisé par West Trans, qui est l'asso trans qui agit en Bretagne. Du coup, qui un rassemblement pour celles qui sont parties et celles et ceux qui sont en vie. Et ce matin, à la fac de Rennes, il y a des banderoles qui ont été accrochées en hommage aux trans assassinés. Et aussi à Nantes, ce soir aussi, il y a une commémoration organisée par l'asso Trans Interaction, qui sera aussi l'occasion de dénoncer la posture de la France lorsque ces lois mettent encore plus en danger les personnes trans précaires, non blanches, travailleuses du sexe et migrantes qui doivent non seulement faire face à la transphobie d'État, mais aussi à son racisme.
Et juste pour préciser, c'est que depuis septembre, on en parle beaucoup dans les Canu Info, mais il y a beaucoup d'actions qui sont faites sur les féminicides, des collages, etc. On a écouté un reportage encore mercredi dernier là-dessus. Et donc, les féminicides concernent aussi beaucoup les femmes trans. Ouais. We'll be right back.
Alors salut, ça y est, t'es à l'antenne. Est-ce que tu nous entends?
Tout à fait, bonsoir.
Ouais, super, et nous on t'entend, c'est parfait. Dis-moi, alors t'étais un rassemblement Jamais sans toi, et tu vas nous parler un peu de la nouvelle réglementation ou nouvelle loi, ou que je sais pas comment appeler ça, sur l'hébergement. Est-ce que déjà tu peux nous donner un peu le cadre sur ce que c'est l'hébergement, le plan froid, l'hébergement d'urgence, tout ça?
Ouais. Et ben, alors en fait, c'est hyper simple et assez compliqué finalement. Quand on se retrouve à la rue, il y a un endroit auquel on peut faire une demande d'hébergement qui s'appelle la Maison de la Veille Sociale à Lyon. Et du coup, on se rend à cet endroit-là, on fait une demande d'hébergement, il y a un travailleur social qui nous reçoit, on dit nanana, toute notre situation. Et ensuite, on a cette demande d'hébergement qui est posée et ça nous donne le droit à un hébergement. Il y a plusieurs possibilités, on peut être soit ce qu'on appelle dans l'hébergement d'insertion, ça c'est pour les personnes qui ont des papiers, ou dans l'hébergement d'urgence, ça c'est pour les personnes qui n'ont pas de papiers. Urgence ne veut pas dire rapidité. C'est assez paradoxal, en fait, finalement, c'est plutôt pour l'hébergement d'urgence que c'est le plus long. Là, actuellement, on est sur des délais d'attente de 1 an et demi à 3 ans, et sur l'insertion, plutôt sur 8 mois d'attente. Donc ça, c'est pour tout le monde. Et après, il y a des hébergements beaucoup plus ponctuels de mise à l'abri. Et donc, il y a soit des nuitées qu'on peut avoir quand on appelle le 115. Si on est une personne seule, on peut avoir des nuitées, mais ça représente ça 30 places sur toute l'agglomération de Lyon. Du coup, c'est vraiment pas grand chose. Et après, il y a aussi les hébergements dans le cadre du plan froid. Dans le cadre du plan froid, du coup, c'est des mises à l'abri. Il y a deux possibilités, quoi. Soit c'est des prises à l'abri de 6 mois. Alors 6 mois, c'est pas vrai, parce que ça commence souvent à peu près à décembre, mais en gros 5 mois. Et ça, c'est sur la base des gens qu'on fait une demande à la Maison de la Veille Sociale. On prend les personnes les plus prioritaires, qu'on considère les plus vulnérables, les plus en galère ou quoi. Et elles sont hébergées. Donc ça, c'est pareil, qu'on a des papiers, qu'on n'ait pas de papiers, sur la durée du plan froid. Et après, il y a le plan très grand froid, quand il fait vraiment très très froid, c'est plusieurs nuits négatives. Et là, il y a des gymnases qui sont ouverts. Et ça, c'est des gymnases qui sont ouverts tant que c'est sur une température négative, donc 3, 4 nuits, 5 nuits, quoi, pas beaucoup plus, quoi.
Et du coup, qu'est-ce qui va changer avec cette nouvelle loi? Est-ce que c'est tout l'hébergement au plan froid qui va être pris en compte? Qu'est-ce qui change par rapport à l'année dernière? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça?
Et ben alors, ce qui va changer là, c'est que il y aura plus d'hébergement d'urgence. Ça va s'appeler de l'hébergement de mise à l'abri. Et donc du coup, jusque là, il y avait 3500 places pour l'hébergement d'urgence, donc pour tout le monde, hébergement inconditionnel et continu, et il y avait 1500 places urgence, insertion, pardon, donc pour les personnes qui ont des papiers. Et là, en fait, ils vont échanger, il va y avoir 3500 places en insertion, donc pour les gens qui ont des papiers, et 1500 places urgence, mais du coup, là, de mise à l'abri, ça sera plus pour tout le monde, ça sera réservé à très peu de personnes, et ça sera sur des places de 2 mois renouvelables. Donc jusque-là, l'hébergement, il était inconditionnel pour tout le monde, qu'on ait des papiers, qu'on n'ait pas de papiers, qu'on ait quoi que ce soit, et continue, une fois que je rentre en hébergement, j'y suis pour toujours, jusqu'à ce que je trouve une solution plus adaptée ou que je souhaite partir. Là, ce qui va se passer, c'est que l'hébergement de mise à l'abri, donc de 2 mois renouvelables, sera réservé à très peu de personnes sur des critères décidés par la préfecture, donc de vulnérabilité. Et ça, les critères, on est vulnérable selon la préfecture. Quand on est un enfant de moins de 1 an, qu'on est une femme enceinte au 6e mois, ou alors qu'on est très très malade. Et donc du coup, bah, concrètement, peut-être tu peux donner des exemples, c'est plus clair. Je suis une famille avec des enfants de 2 et 4 ans qui a fait une demande d'hébergement il y a 2 ans, qui est en attente de mon hébergement, j'ai pas de papier. Du coup, on va me dire, bah non, vous n'avez pas le droit à l'hébergement et vous n'aurez jamais le droit à l'hébergement. Je suis un jeune homme de 25 ans qui est sans papier. Je pourrais jamais faire de demande d'hébergement, j'aurais jamais le droit à l'hébergement, et ce pour toujours.
D'accord. Mais après, par exemple, ça change quoi? Il y avait, pardon, ma question n'est pas claire. L'année dernière, il y avait Colomb qui avait, quand il était ministre de l'Intérieur, qui avait fait un décret qui demandait à tous les centres d'hébergement de lui fournir la liste des personnes sans papier qui l'hébergeaient. Du coup, là, on peut dire que cette année, le gouvernement allait encore plus loin que cette directive qu'il avait donnée, qui avait déjà scandalisé à l'époque, où en fait maintenant du coup juste ce sera plus possible, il y aura plus de personnes, enfin si on n'a pas de papier en gros, ça va être peut-être pas impossible mais vraiment vraiment très très compliqué de pouvoir être hébergé quoi.
Et bah ouais, c'est ça en fait, c'est que mais en fait c'est dans la même logique en fait, c'est une espèce de logique raciste d'État de dire en fait les gens ils ont pas de papier, ils ont pas resté sur le territoire français quelle que soit leur situation, sans prendre en compte la réalité des gens et sans prendre en compte en fait que les gens bah, en fait ils restent en France quoi qu'il se passe en fait, même s'ils sont à la rue, les gens ils restent en France 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans dans des conditions horribles en fait, ils restent et du coup en fait c'est vraiment ce logique du coup qui tient à la tête la circulaire Collomb en fait de dire et ben bah, au centre d'hébergement, parce que les gens souvent ils peuvent rentrer en centre d'hébergement des fois quand ils sont en demande d'asile. Et après, du coup, une fois qu'ils font débouter leur demande d'asile, on ne sait pas forcément où ils sont. Et donc, du coup, l'État, de demander ça, ça lui permet peut-être de balancer des OQTF à tout le monde et de pouvoir gérer tout le monde. Et donc là, bah, c'est la logique de dire, en fait, bah, les gens, on va leur faire vivre des conditions de vie complètement horribles dans l'idée qu'ils partiraient. Mais, sauf qu'en fait, ça n'existe pas, ça, les gens, ils partent pas, en fait. Quoi. Les gens, il vaut mieux pour eux être à la rue, à Lyon, que être d'où ils viennent, quoi.
Et par exemple à Lyon, on a eu une idée du nombre de places qui va être accordé pour le plan froid ou pour l'instant on ne sait pas.
Ouais, ouais carrément. Il y a a priori à peu près 800 places qui vont être accordées pour le plan froid. Mais donc du coup et donc là sur ces places plan froid, c'est que des gens du coup sur les mêmes critères de vulnérabilité là que je disais qui vont rentrer. Et donc du coup même ces places de plan froid là, même avec ces critères de vulnérabilité là, suffisent pas en fait. Il y a entre 1200 et 1300 personnes à peu près qui auraient besoin d'être hébergées si on prend que les critères de vulnérabilité hyper restreints qui ont été dits là juste pour le plan froid. Donc du coup on va se retrouver avec même ce plan froid quand même. Même de l'hébergement au plan froid. En fait, le plan froid, c'est dans l'idée, ça peut être bien, mais en fait, dans la pratique, ce qui se passe, c'est que les gens ils sont mis à la rue au 1er avril, quoi. Et du coup, c'est tu commences à construire quelque chose, à construire un endroit et tout, et du coup, bah, bim, on te remet à la rue au 1er avril, quoi.
Oui, c'est ça. Et puis, ça, on le dit souvent sur cette antenne, mais les gens meurent aussi bien quand il fait froid que quand il fait chaud ou quand il fait moyen, quand il fait tiède dans la rue, quoi. C'est pas forcément un critère de rester en vie suivant les températures. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, quand les personnes appellent le 115, on va leur dire, bah, venez nous voir, passez au bureau, et puis on va voir en fonction de votre situation et de votre urgence si vraiment, vous rentrez dans les critères ou quoi.
C'est ça, en fait, là maintenant, alors c'est ça qui est encore plus pervers, c'est que les gens, par exemple, s'il y a des gens qui appellent le 115, pour demander un hébergement, même s'ils rentrent dans les critères, il faut que ça va pas suffire en fait qu'il y a une famille qui est vue par qui appelle le 115, qui rentre dans les critères, elle va pas être hébergée tout de suite parce qu'en fait il y a aussi un système en fait, ce qu'on appelait avant les avérés à la rue en fait. Il faut qu'il y ait un travailleur social, une travailleuse sociale, un service social de n'importe où qui ait rencontré cette famille et qui atteste des critères de vulnérabilité. Donc c'est-à-dire qu'en plus on demande aux travailleurs sociaux d'être les petits flics de l'État pour bien attester que les gens sont effectivement ce qu'ils déclarent être, quoi.
Et du coup, du côté des travailleurs sociaux, on prend cette mesure comment?
Et ben très clairement pour tous les travailleurs sociaux et les travailleurs sociaux, en fait, c'est une remise en cause, si tu veux, du fondement du travail social. En fait, le travail social, c'est permettre aux gens d'accéder à leurs droits. Et donc là, le droit n'existe plus. Donc du coup, ben c'est pour les travailleurs sociaux, ça change complètement en fait. Quoi. On peut pas demander aux travailleurs sociaux d'être attestés si les gens sont bien vulnérables, pas vulnérables, et puis travailler que avec les gens qui ont des papiers. Enfin, en fait, du coup, au contraire, bah, plutôt la plupart des gens sont plutôt révoltés. Et donc nous, on est le collectif hébergement en danger. Et du coup, bah, on a organisé un certain nombre de mobilisations depuis à peu près un an. Et là, bah, on a fait une réunion il y a 2 semaines à la Bourse du Travail, justement pour expliquer ces nouvelles mesures. Il y avait quasiment 200 personnes. Donc c'est plutôt assez chouette de voir ça. Et puis du coup, de voir en fait les gens au sein de leur asso aussi, beaucoup de ça, plutôt ça se mobilise pas mal et les gens commencent à prendre conscience de ce qui se passe. Et du coup, nous, on organise une grève et une manif jeudi prochain. Et donc, ça sera à 14h devant la... Mais ça partira à 14h devant la métropole. Et pour aller jusqu'à la préfecture. Et du coup, il y aura un rassemblement devant la préfecture à 16h. Quoi.
D'accord. Et bien sûr, vous invitez toute personne à vous rejoindre à la manif, j'imagine.
Et bah ouais, carrément. Parce qu'en fait, ça, je veux dire, nous, travailleurs sociaux et travailleuses sociales, en fait, on est aux prises avec les situations des gens, mais en fait ça va concerner tout le monde en fait, parce que ça veut dire que dans les écoles en fait, bah, toutes les familles seront plus du tout hébergées. Du coup on va être là actuellement là, sur Rassemblement Jamais Sans Toi, il y a 200-300 personnes, parce qu'il y a pas mal de familles à la rue, mais là ça veut dire que dans 6 mois en fait il y en aura encore plus des familles. Donc, du coup toutes les institutions en fait qui sont en contact avec du public vont être aux prises avec ça en fait. Donc que ce soit les écoles, que ce soit les maisons de la métropole, que ce soit les accueils de jour, que ce soit même tout ce qui est maraude bénévole, tout ce qui est centre social, en fait, tous les gens qui sont au contact de gens qui pourraient ne pas avoir passé, et ben vont être touchés par cette réforme-là, en fait.
Et peut-être tu seras d'accord avec ce que je veux dire, mais on est aussi d'accord que en fait ça va pas non plus arranger la situation de gens qui ont des papiers, qu'en gros l'État là essaye juste de faire des économies sur l'hébergement, mais que c'est pas en refusant les personnes sans papiers que les personnes qui ont des papiers vont se retrouver dans une meilleure situation. Juste ça va être une situation globale qui se dégrade vraiment pour tout le monde, quoi.
Et ben ouais, parce qu'en plus ce qui se passe c'est que sur les nouvelles orientations en fait, les gens qui sont déjà en place d'hébergement vont pas perdre leur place, si tu veux, quoi. Alors peut-être qu'à terme si c'est ce qui va se passer, mais du coup en fait c'est le changement, la bascule va se faire avec du temps. Du coup les gens qui ont des papiers vont attendre tout aussi longtemps pour avoir leur hébergement en fait, parce que les places vont se libérer que petit à petit. Et par ailleurs en fait bah, c'est juste un moyen là à ce moment-là, ok, pour l'État, il se dit ok bah où est-ce que je peux gagner des sous, et bah ils gagnent des sous là en se disant j'héberge plus les personnes sans papiers, mais aussi bien ça peut très bien être l'année prochaine de dire eh ben alors j'héberge les personnes qui ont des papiers, mais seulement des titres de séjour de 3 ans, parce que ça se trouve la personne qui a un titre de séjour de 1 an, l'année prochaine elle n'aura plus son titre de séjour, du coup je vois pas pourquoi je l'hébergerais.
C'est ça, c'est clair. C'est que du moment qu'on casse l'inconditionnalité de quelque chose, on commence à rentrer des critères, et les critères ils vont devenir de plus en plus restrictifs, comme à chaque fois dans ce genre de cas. Super. Est-ce que tu as d'autres trucs à rajouter?
Eh ben non, mais venez à la manif de jeudi prochain, et puis sinon venez au rassemblement devant la préfecture, et puis bah, on espère qu'on va y arriver ce possible, quoi.
Eh ben merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. En tout cas, pour conclure, on peut dire voilà, que le Conseil d'État, avec cette histoire, mène des politiques, comme tu l'as dit, clairement racistes. On peut rappeler aussi.
Eh ben ouais,
que...
merci beaucoup.
Au revoir.
Salut.
On peut rappeler aussi que ce même gouvernement réduit les conditions à l'AME. L'AME, c'est l'aide médicale d'État qui est mise en place pour les personnes qui n'ont pas de papier pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge sur des maladies, et que globalement bah, on voit avec tout ça que c'est des réductions de 3 francs 6 sous et qui détériorent la vie d'énormément de personnes en France.
CanUFO du mercredi.
Quelques nouvelles de la situation en Bolivie, du coup, maintenant. Mardi, des affrontements ont éclaté à El Alto, non loin de la capitale de La Paz, entre des manifestants et las Fuerzas Armadas, c'est l'armée bolivienne. La police et l'armée sont intervenus avec blindés et hélicoptères pour débloquer l'accès à une raffinerie occupée depuis près d'une semaine par des opposants au nouveau gouvernement de droite, après le coup d'État contre Morales. Lors de ces affrontements, 3 personnes ont été tuées selon les médias et le gouvernement, alors que les manifestants dénoncent la mort d'au moins 6 personnes. Les manifestants affirment que ces personnes ont été tuées par la police qui a tiré à balles réelles, et la police se défend en déclarant que les manifestants se tuent entre eux. En effet, dans une conférence de presse, le chef de l'armée a déclaré que la police et l'armée n'y étaient pour rien. Pourtant, des vidéos prises par les manifestants prouvent le contraire. On en est à plus de 30 morts, 400 blessés et plus d'une centaine de personnes emprisonnées depuis le début des manifestations qui dénoncent la prise de pouvoir de Jeanine Agnès, nouvelle présidente de droite.
Sachant que ça, c'était la semaine dernière, donc lundi dernier. Donc ça fait 10 jours.
Les chiffres, c'était les chiffres d'aujourd'hui.
Non, ça fait 10 jours. Oui, en 10 jours, il y a eu 30 morts.
Ouais. Voilà. D'autre part, il commence à y avoir de longues files d'attente pour pouvoir accéder à la nourriture dans les quartiers pauvres de La Passe. Il n'y a plus de légumes, plus d'œufs et surtout plus de gasoil, ce qui complique l'approvisionnement en nourriture. Les partisans de Morales accusent le gouvernement d'empêcher l'approvisionnement pour les punir et justifier la répression. C'est pas sans rappeler tout ce qui s'est passé au Venezuela. Et alors que dans la plupart des médias, on peut lire que les manifestants sont dans la rue uniquement pour demander le retour de Morales, il y a des manifestants indigènes qui affirment qu'ils se révoltent surtout contre le fascisme de l'ultra-droite et qui les tuent du fait d'être indigènes. On peut notamment lire dans un article sur un site en espagnol qui s'appelle anarchia.info. Tout au long de notre histoire, la droite et la gauche ont utilisé les luttes indigènes et sociales pour s'emparer du pouvoir, pour piétiner nos têtes empilées, s'en servir comme marchepied. Nous, les Indiens, y laissons les morts, avec ce gouvernement ou n'importe quel autre. Nous serons de la chair à canon, car pour l'État, le capital, nous ne sommes que de la main-d'œuvre. C'est pourquoi rejet total de toute forme de pouvoir et d'autorité.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
En Iran, vendredi soir, donc c'était le 15 novembre 2019, le régime à Téhéran a annoncé l'augmentation du prix de l'essence. Et donc, une mobilisation de large ampleur s'en est suivie immédiatement, puisque des milliers d'automobilistes ont commencé à bloquer les rues de Téhéran et d'autres grandes villes. Et donc, dès le samedi, de nombreuses émeutes dans une quarantaine de villes iraniennes. Il y a un quartier de la grande ville de Shiraz qui serait toujours entre les mains des insurgés, et les étudiantes tiennent l'université de Téhéran. Trois membres des forces de l'ordre auraient été tués ce week-end, et même si le triplement de l'essence annonce du triplement de l'essence qui a fait descendre les iraniennes et iraniens dans les rues, c'est l'ensemble du système qui est dénoncé. Donc notamment dans les slogans, il y a ni Gaza ni Liban, ma vie seulement pour l'Iran, mort à Rouhani le président iranien ou mort au dictateur, répondez au peuple, vous les salauds, sortez de vos trous, vous les macros. Voilà, donc c'est le système en place qui est dénoncé. Et pourquoi j'ai parlé en disant aurait été, c'est que lundi il y a eu une coupure d'internet dans le pays. C'est un blackout qui a été décrété par le Conseil supérieur de sécurité nationale, l'organisme chargé des questions stratégiques et de défense sur l'ensemble du territoire. Donc en l'absence d'internet, on ne sait plus exactement ce qui se passe en République islamique d'Iran. Internet et l'accès aux réseaux sociaux qu'il permet est l'arme numéro un des protestataires dans ce pays où il n'existe aucune opposition organisée. Donc couper Internet, c'est aussi couper les manières d'organisation de l'opposition. Et même le téléphone avec des cartes prépayées qui est très utilisé en Iran ne fonctionne plus actuellement. Voilà. Outre Shiraz et l'université Téhéran, le Kurdistan iranien serait aussi en ébullition. La contestation semble aussi continuer dans l'est de la capitale et au Khuzestan, sud de l'Iran, où la situation de la population, donc accablée par la pollution, les inondations et la misère, est de plus en plus dramatique. Et à Yazd, cette fois à l'autre extrémité du pays, les bureaux de l'ayatollah Ali Khamenei, le guide de la révolution islamique, ont été incendiés. À Shiraz et à Kasroun, deux établissements supérieurs d'enseignement des sciences religieuses ont été brûlés. Et d'une façon générale, beaucoup de bâtiments flambent actuellement en Iran. La cible privilégiée des contestataires reste les banques. Il y a plus d'une centaine de banques qui ont brûlé. Et ça, c'était avant l'arrêt d'Internet. Donc on peut imaginer qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de banques qui ont brûlé. Et de même que donc des dizaines d'immeubles et de voitures. Le mouvement se poursuit. Et malgré une répression violente de la police. Donc, de leur côté, les passes d'Aran, les gardiens de la Révolution, ont adressé lundi aux manifestantes une mise en garde des plus menaçantes. Je cite « Si nécessaire, nous prendrons des mesures décisives et révolutionnaires contre tout mouvement visant à continuer à perturber la paix et la sécurité du peuple ». Donc on voit bien leur orientation. Et donc à ce jour, il est impossible de savoir le nombre exact de victimes dans les affrontements qui sont du coup d'une haute intensité entre manifestants et forces de l'ordre. Donc il y a Amnesty International qui a estimé hier mardi que plus de 100 manifestants pourraient avoir été tués dans 21 villes différentes du pays. Donc voilà, ils disent que c'est 100, ils savent pas exactement encore. Et selon les médias d'État iranien, plus d'un millier d'émeutiers ont d'ores et déjà été arrêtés. Et les premières vidéos envoyées samedi avant le blackout montrent des affrontements d'une très grande violence, notamment de la part des brigades de police motorisées. De toute façon, on sait que la violence est toujours plus forte du côté de la police que de notre côté. Toujours selon Amnesty International, les forces de sécurité ont reçu le feu vert pour écraser les manifestations. Donc écraser étant le terme utilisé par le gouvernement. Des manifestations de soutien au pouvoir apparemment auraient été organisées hier. Donc voilà, par... Il y en avait des annoncés pour aujourd'hui et pour les prochains jours. Et enfin, le gouvernement aurait commencé à verser des aides directes sur les comptes des familles de quelques 60 millions d'Iraniens. Donc une mesure qui vise à compenser la hausse du prix de l'essence et à calmer les esprits. Donc parce qu'ils souhaitent que la situation arrête d'être explosive et enflammée. En tout cas, pour rappel, pendant l'hiver 2017-2018, l'Iran avait connu des protestations similaires, également de grande ampleur et qui avaient été durement réprimées. Au moins 22 morts, selon le décompte de l'agence Reuters à l'époque, et des milliers d'arrestations et de condamnations à des peines très sévères par les tribunaux révolutionnaires. C'était alors les classes populaires qui se révoltaient, mais les classes moyennes ne les avaient pas rejointes en 2017-2018. Et bien sûr, pas les classes les plus aisées qui font depuis longtemps les affaires du régime. Mais aujourd'hui, les étudiants ont rejoint la contestation et sans doute les classes moyennes inférieures. Donc on peut imaginer que c'est d'autant plus large les contestations. Et dimanche soir, dans le cœur de la capitale libanaise à Beyrouth, les jeunes manifestants exprimaient leur solidarité avec ceux d'Iran en chantant « De Téhéran à Beyrouth, une seule révolution qui ne s'éteindra pas ».
Radio Canu 102.2,
la plus rebelle des radios.
Info. Et de Téhéran à Beyrouth, une révolution qui ne s'éteindra pas. Maintenant, on va parler du Liban, puisque ça chauffe aussi depuis plusieurs semaines, depuis le 17 octobre. Donc, plus d'un mois, des centaines de milliers de Libanaises de tous bords descendent dans les rues pour dénoncer la dégradation de la situation économique, dont notamment les pénuries d'électricité et de gaz, le chômage endémique et en perpétuelle augmentation, une couverture santé précaire, la cherté de la vie globalement et une dette du gouvernement abyssale. Et pour les étudiantes, c'est aussi l'absence de perspectives professionnelles. C'est pour le préciser, le Liban, c'est un pays qui compte moins de ressortissants sur son propre sol qu'à l'étranger. Et le président Michel Aoun, 84 ans, a eu ce mois une formule lapidaire. Si au sein de l'État il n'y a personne qui leur convient, donc aux manifestants, étudiants, etc., qu'ils émigrent, a-t-il asséné, attisant donc les foudres et les colères des manifestants. Il y a aussi des revendications féministes autour des mariages précoces et des violences conjugales. Et les manifestants dénoncent aussi la défaillance de l'État et réclament le départ d'une classe politique jugée incompétente et corrompue. Il y a beaucoup, beaucoup de slogans autour de la corruption de l'État. Et une sorte de ras-le-bol généralisé. Et pour donc ça, c'est le contexte général depuis le 17 octobre où des milliers de personnes sont dans les rues. Et hier, donc mardi 19 novembre, les manifestantes ont réussi encore une fois à bloquer les accès au Parlement dans le centre de Beyrouth toute la matinée. Donc il y a eu occupation des routes et des accès au Parlement avec des casseroles, beaucoup beaucoup de bruit. Donc c'est d'une intensité en termes de violence dans les rues, c'est moins violent qu'en Iran, c'est beaucoup plus des blocages. Il y a moins d'affrontements, moins de bâtiments qui sont attaqués, visés, brûlés, etc. Mais ça a été une petite victoire puisque la séance parlementaire a été annulée. Et cette session était en effet consacrée à plusieurs projets de loi controversés par les manifestants, dont un sur l'amnistie. Et en plus des accès bloqués, plusieurs partis politiques avaient annoncé leur boycott de ce projet de loi. Donc d'autres mouvements populaires ont eu lieu par le passé au Liban. En 2005, c'était des centaines de milliers de Libanais qui avaient manifesté pour obtenir le départ des troupes syriennes. Et en 2015, un autre mouvement avait vu le jour face à la crise des déchets.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Alors, eh bien, c'est la surprise de ces infos. L'INSEE a sorti une étude qui démontre que la suppression ou la modification, suivant comment on veut l'appeler, de l'ISF remplacée par l'IFI, c'est vachement moins joli comme nom en plus, pour impôt sur la fortune immobilière, et les réformes mises en place par le gouvernement sur la fiscalité du capital, autrement appelé flat tax. Alors, si vous y comprenez rien, c'est normal. Hein, je veux dire, c'est-à-dire que si vous ne faites pas partie du coup des 10% les plus riches de France, eh ben, ça ne vous concerne pas trop. Parce que ces réformes ont permis du coup à ces 10% de se mettre 800 euros de plus en moyenne par an dans les poches. Bon, alors, on se dira, 800 euros de plus par an pour les 10% les plus riches, je pense qu'ils n'en avaient rien à foutre, franchement. Nous, oui, on aurait été plutôt contents.
C'est de l'argent en moins dans les poches de l'État, quand même.
C'est ça. Et pour le reste de la population, c'est-à-dire vous et moi, c'est plutôt entre 130 et 230 euros de plus par an. Hein, donc c'est un peu ridicule. Les ménages les plus aisés ont vu leur niveau de vie augmenter de 0,8%. Alors 0,8% quand on a des grosses fortunes, c'est quand même beaucoup. Pour le prélèvement forfaitaire unique, autrement appelé le PFU de 30%, c'est cette espèce de flat tax là qui dit que c'est un impôt, on comprendra pas trop, mais tant pis. Il a bénéficié à 8,8 millions de ménages, mais les plus gros gains sont concentrés chez les 5% les plus aisés. Bref,
comme pas hasard.
Ouais, c'est ça. En tout cas, niveau ruissellement, eh ben, je pense qu'il va falloir qu'on attende encore un petit peu.
Et maintenant, une petite mise à jour brève d'actualité sur Hong Kong, puisque c'est le quatrième jour de siège de l'université. Donc la police encercle toujours à l'heure actuelle l'université polytechnique de Hong Kong. Pour rappel, depuis ce week-end, la Poly-U est devenue le symbole des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Et pendant 5 heures dans la nuit de dimanche à lundi, les protestataires et policiers se sont affrontés. Canons, AO et tirs de gaz lacrymogène contre cocktail Molotov. Bon, au moins c'était un peu plus... C'était des affrontements, quoi. Il y avait possibilité que la police s'en prenne un peu dans la figure pour une fois. Et la contestation, pour situer, avait basculé la semaine dernière dans une phase plus violente avec une stratégie baptisée « Éclore partout » qui consiste à multiplier les actions, notamment de vandalisme, pour éprouver et épuiser au maximum les forces de l'ordre. Et au total, quand même, c'est 700 personnes qui ont déjà été arrêtées en rapport avec l'occupation depuis donc, ce week-end. Et un gigantesque SOS a été tracé aujourd'hui sur le campus assiégé. Et là, il reste une cinquantaine de personnes, de manifestants à l'intérieur de l'université. Et leur état se détériore puisqu'ils sont réellement assiégés par la police. Donc tous les vivres qu'ils ont se réduisent. Ils ont quasi plus d'eau potable puisque des tirs de gaz lacrymogène font que l'eau potable n'est plus là. Donc c'est une situation vraiment compliquée pour elles et eux. Et donc la police a déjà annoncé que 213 personnes avaient été arrêtées, qui avaient été arrêtées lundi soir lors des manifestations, ont été inculpées aujourd'hui. Et là, il y a la pression internationale s'est accentuée. Donc il y a quand même, on a entendu aujourd'hui pas mal de déclarations dans les médias sur la condition inquiétante là sur le siège par les flics. Mais il y a eu l'adoption aux États-Unis par le Sénat américain d'un texte de soutien aux exigences des protestataires, ce qui a beaucoup énervé Pékin. Et puis on sait que sur d'autres enjeux stratégiques, c'est la guerre entre la Chine et les États-Unis. Bon, bref, pour dire aussi que dimanche, les Hongkongais et Hongkongaises sont appelés aux urnes pour désigner leur conseiller de district. C'est un scrutin local qui a valeur de test 5 mois et demi après le début de la contestation. Mais les autorités ont bien averti que si les violences continuent, ils pourraient être empêché, donc il y a bien moyen qu'il soit reporté encore une fois.
Et quand même, petite précision sur ce que risquent les personnes qui sont dans cette université et même les manifestants et manifestantes. C'est-à-dire que si ils sont arrêtés et qu'ils passent en procès et que la qualification d'émeutier est retenue, et quand on voit l'ampleur du siège de l'université, il y a fort à parier qu'elle soit retenue, les personnes risquent quand même jusqu'à 10 ans de prison. C'est quand même pas mal.
C'est pour ça qu'il reste...
C'est ça, c'est pour ça que du coup là, les cinquantaines de personnes sont un peu en train de se dire juste on va rien lâcher, parce que de toute façon...
Canu Info du mercredi.
Une autre brève pour que ça soit entendu et rappelé, c'est que les États-Unis soutiennent les colonies illégales israéliennes en territoire palestinien, et c'est chose devenue officielle puisque lundi soir, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré que les États-Unis ne considéraient plus les colonies israéliennes comme illégales au regard du droit international. Donc on sait qu'il s'inscrit dans la ligne ultra-partisane adoptée par Donald Trump sur le conflit israélo-palestinien. Donc depuis l'arrivée de Trump, c'est les déménagements de son ambassade à Jérusalem, pour rappel, ou la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le Golan, ou l'expulsion des diplomates palestiniens de Washington. C'est tout ça qui s'est passé ces derniers mois quand même. Et donc cette annonce rompt avec 4 autres décennies avant Trump de diplomatie et de consensus internationaux. Bref, ça reste une déclaration symbolique, encore une fois, mais cela aussi renforce et légitime le pouvoir de l'État israélien et ses assises. Et donc, c'est pas normal qu'il y ait ces prises de position là. Sachant que la semaine dernière, donc mardi 12 novembre, il y avait la Cour de justice de l'Union européenne qui avait rendu un arrêt au sujet de l'étiquetage des produits fabriqués dans les territoires occupés par Israël en Cisjordanie et dans le Golan, renforçant et précisant la juridiction européenne déjà en vigueur, en exigeant que l'emballage de ces denrées informe explicitement sur leur origine. Donc maintenant, sur les produits, il va y avoir clairement écrit provenance colonie israélienne. Donc c'était un pas qui avait été fait dans l'autre sens, justement pour montrer les formes illégales d'occupation de la Palestine par des Israéliens. Et donc c'est deux sons de cloche en 2 semaines.
Écoutez, à tout moment ils peuvent venir te prendre, pour le moment tu es à
leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des limites par terre. C'est que les lois mises en place.
Blabla, info, contre la
magie. Et alors, eh bien, on va commencer ce Faut que ça sache par des brèves de frontières et on va d'abord aller du côté des Pays-Bas où la police et les secours ont découvert 25 personnes cachées dans un conteneur frigorifique à bord d'un ferry néerlandais qui faisait route vers la Grande-Bretagne. Tout le monde a été conduit à l'hôpital pour subir des examens, voir leur état de santé et tout ça. Deux sont restés à l'hôpital hospitalisés pour hypothermie, les trois autres ont été conduits au commissariat de police. Bien sûr, cela fait écho où, à fin octobre, où 39 personnes vietnamiennes sont mortes dans un camion frigorifique alors qu'elles tentaient de passer en Grande-Bretagne. Si les personnes se mettent dans des camions frigorifiques, c'est pas par plaisir, c'est pour éviter d'être repérées par les caméras thermiques des douanes. La sophistication des frontières et l'accroissement des contrôles ne fait pas renoncer celles et ceux qui veulent les traverser, ils vont juste simplement prendre plus de risques pour leur vie en les traversant. On va du côté de la Slovénie et de l'Italie. Des patrouilles binationales slovènes-italiennes se sont mis d'accord quand il s'agit de contrôler les frontières. En général, ils ne tardent pas à s'accorder à la frontière, donc entre la Slovénie et l'Italie. Si le nombre de passages avait diminué ces trois dernières années, la route par les Balkans est de nouveau de plus en plus empruntée et de plus en plus par des Algériens et Marocains qui préfèrent passer par la Turquie, puis les Balkans en marchant sur la terre plutôt que de risquer de passer par la Méditerranée. Et on les comprend. Si l'Italie avait parlé dans un premier temps de dresser un barbelé, cette option a été rapidement mise de côté. Mais mis à part le côté symbolique d'une barrière où voilà, ça aurait fait un peu les gros titres dans les médias en disant « Ah, un mur de plus en Europe » et c'est vrai que ça aurait été craignos, l'Italie et la Slovénie possèdent tout de même de gros moyens pour surveiller ces routes, vidéosurveillance, drones, moyens humains. Bref, il n'y a pas de frontières, enfin en tout cas il n'y a pas de barrière physique, mais il y en a une technologique et humain. En tout cas, tout est bon pour choper celles et ceux qui veulent passer de l'autre côté. C'était pas du tout ce générique, hein. C'était à continuer de tourner. Hop, la suite.
Faut que ça sache. Donc, Athènes va remplacer le plus gros camp de migrants par des structures fermées. Donc, il y a plus de 32 000 personnes qui vivent actuellement dans des conditions misérables, dans les 5 hotspots. Donc, c'est les camps où sont effectués les enregistrements. Donc, de Lesbos, Samos, Leros, Chios et Kos, pour une capacité théorique de seulement 6200 personnes. Et donc, Athènes a annoncé la fermeture des trois plus grands camps de migrants sur les îles Égéennes, donc de Lesbos, Samos et Chios, et les remplacer par des structures fermées, triplant les capacités d'accueil. Sauf que, donc, qui dit structure fermée dit que les droits pour les personnes sont restreints, sachant que on fera toujours que le rappeler, mais le seul délit de ces personnes, c'est d'avoir traversé illégalement des frontières, sauf que ce n'est pas des personnes ayant commis des délits, c'est juste des personnes qui se déplacent d'un endroit A vers un endroit B. Et donc les trois camps abritent actuellement plus de 27 000 personnes et donc pour une capacité totale de 4 500 personnes. Donc ils vont les remplacer par des structures fermées de 5 000 personnes chacune, 5 000 places chacune. Donc autant dire, ça marche toujours pas avec le nombre, ça fait 15 000 places donc, sauf que là il y a 27 000 personnes. Voilà, et donc au lieu d'être autorisés d'aller et venir librement sur les îles, les demandeurs d'asile seront enfermés à l'intérieur des nouveaux camps. Donc là au moins ils peuvent être se balader, là ça sera plus possible, le temps de les identifier, d'étudier leur statut et de décider leur relocalisation ou leur retour en Turquie. Et les deux autres camps, donc de Chaos et Leros, seront soi-disant rénovés et élargis. Donc à voir aussi si ça va devenir des structures fermées type les CRA en France, hein, parce que en France c'est ça, c'est des structures fermées. Et de toute façon, on en avait déjà parlé il y a quelques temps, mais le gouvernement grec a commencé à transférer des centaines de demandeurs d'asile des îles égéennes vers le continent, avec donc l'objectif d'en relocaliser 20 000 d'ici la fin 2019. En tous les cas, la Grèce sait pas trop quoi faire de tous les demandeurs d'asile sur son territoire, puisque il faut les amener sur le continent, les personnes qui ne refoulent pas en Turquie. Sauf que les centres d'accueil sont complètement saturés. Donc voilà, c'est la grosse merde pour les demandeurs d'asile en Grèce, mais partout en Europe globalement. Et pour finir ce Canu Info, j'avais envie de parler de reconnaissance faciale, puisqu'en ce début de semaine, il y a eu des annonces du gouvernement sur la reconnaissance faciale. Et donc, c'est pour dire que c'est un faux débat, puisque faux citoyens, ou je sais pas comment dire, n'avons pas notre mot à dire là-dessus. Pour le rappeler, parce que la reconnaissance faciale des manifestantes est déjà autorisée. Ce n'est pas une question à poser au peuple. Le peuple est déjà sous vidéosurveillance et déjà fiché, en fait. Je suis désolée de vous annoncer cette mauvaise nouvelle maintenant, hein, si vous n'étiez pas au courant. Depuis 6 ans, le gouvernement a adopté plusieurs décrets pour autoriser l'identification automatique et massive des manifestants et manifestantes. Cette autorisation s'est passée de tout débat démocratique, hein. Je veux dire, ça a été mis en place depuis 6 ans, voilà. Elle résulte de la combinaison insidieuse de 3 dispositifs, donc le fichier TAJ, le traitement des antécédents judiciaires, le fichier TES, le titre électronique sécurisé, et la loi renseignement. Et donc, avec ces 3 combinés, la reconnaissance faciale est déjà autorisée, donc théoriquement. L'hypocrisie du gouvernement est totale lorsqu'il prétend aujourd'hui ouvrir un débat démocratique sur la reconnaissance faciale. Il en a visiblement tiré les conclusions depuis longtemps, qu'il nous impose déjà sans même nous en avoir clairement informés. Donc déjà, si le gouvernement pouvait faire de l'information, ça serait sur ce qui est existant, ça serait pas mal. Donc ce qui montre surtout que ce débat sur la reconnaissance faciale, c'est surtout pour accentuer un processus déjà en cours et l'amplifier et l'augmenter, et c'est pas pour mettre en place, puisque c'est déjà en place. Et donc, la Quadrature du Net vient d'envoyer au gouvernement une demande d'abrogation des dispositifs, donc du décrétage qui autorise la reconnaissance faciale. Et ce décret permet de recourir massivement à cette technique sans que la loi ne l'ait jamais autorisée. Et la CNIL, bon, qui fait pas grand chose, hein, la CNIL, voilà, mais a récemment et clairement rappelé être illégale dans des affaires similaires. Donc, elle a déjà tapé sur les doigts du gouvernement là-dessus. Et donc, si le gouvernement rejette la demande de la Quadrature du Net, ils attaqueront le décrétage devant le Conseil d'État. Donc voilà, la Quadrature du Net vient d'engager ces procédures et cette menace en tout cas. Et vous retrouverez un article détaillé et très passionnant, donc sur l'histoire du fichage et plus globalement le fonctionnement des déchets, des fichiers de renseignements.
C'est là où tu veux les mettre.
Ouais, voilà, il faut les mettre à la poubelle. Ouais. Mise en place donc par les différents gouvernements ces dernières années, et donc vous le retrouvez cet article très très bien sur le site de la Quadrature du Net.
Et cette fois-ci, quand même, le gouvernement a essayé une nouvelle stratégie pour faire accepter quand même ce truc-là. C'est qu'en général, ils parlent menace terroriste, blablabla. Bon, là, ils le font un peu, mais ils disent aussi qu'ils veulent simplifier du coup un peu toutes les démarches administratives. C'est-à-dire que, en gros, maintenant, il suffirait, on n'aurait plus besoin de se souvenir un peu des mots de passe compliqués pour les impôts. Vous voyez, ils demandent à peu près 13 caractères, des caractères spéciaux, des minuscules, des majuscules, des chiffres. Bref, personne n'arrive à s'en souvenir, mais du coup, ils veulent que, eh ben, maintenant, ça se fasse par reconnaissance faciale sur la webcam de vous, sur l'appareil photo de votre smartphone. Du coup, ils essayent un peu de jouer sur le côté sexy du truc, quoi.
Et par rapport à ça, moi, ça m'évoque un très bon article qui a été sorti cet été dans Le Monde Diplomatique sur la dématérialisation des démarches en ligne. Et comme quoi, c'est terrible parce que tout le monde n'a pas Internet chez soi, tout le monde ne sait pas forcément comment fonctionne un ordinateur, tout le monde ne sait pas forcément très bien écrire ou lire. Et du coup, tout, si on doit payer nos factures EDF et faire toutes nos déclarations en ligne, et ben clairement, ça met des gens dans des grandes impasses. Et bref, voilà, encore une merde de plus de ce gouvernement.
Eh bien, il est 19h passé 52 minutes. On voulait peut-être vous passer un petit reportage qu'on avait déniché sur radioparleur.net. Un reportage qui était Place Bellecour pour les 1 an des Gilets jaunes.
Ce samedi.
Faute de temps, on va pas vous le passer, mais vous pouvez toujours aller sur radioparleur.net et aller écouter ce reportage et tant d'autres qu'il y a sur ce site. En attendant, vous allez vous taper quelques minutes de bande continue et ensuite vous retrouverez Idée Noire, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Et nous, on vous retrouve la semaine prochaine.
On vous souhaite une bonne soirée.
Merci de nous avoir écoutés.
Salut.
Radio Canu. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.